Voilà, c'est parti. Bon, alors, madame, je vais commencer par vous demander votre nom, date et lieu de naissance, et puis celui de Bernard Lambert.
Oui, d'accord. Donc moi, c'est Marie-Paul Cassagne.
Oui.
Je suis née le 18 juillet 1934 à Garavette. C'était Gadavette, c'est dans le Gers.
Oui.
Voilà.
Et pareil pour Bernard
Pour
Lambert.
Bernard, alors Bernard est né le 11 septembre 1931 à
Oui.
Théier, TEI, 2LEI, Loire-Atlantique.
Près d'Ancenis.
Oui, voilà.
Et vous pouvez peut-être, on peut commencer par savoir où vous êtes
Rencontré.
rencontrés. Oui.
Alors, nous nous sommes rencontrés à Paris,
Oui.
dans le cadre des Jeunesses agricoles catholiques.
D'accord, oui.
JAC, JACF, à Paris, voilà.
Parce que ce moment-là, lui était
Il était à
secrétaire.
l'équipe nationale.
Oui.
Il était responsable des équipes aînées, si mon souvenir est bon. Et je venais d'arriver à Paris, où on me demandait de suivre les problèmes d'abord de professionnels par rapport aux filles d'agriculteurs. Puis, on m'a transféré ensuite vers l'organe de presse des jeunes filles qui était Promesse.
Promesse.
Oui.
Donc on est en quelle année là?
On était en 1957.
57.
Oui. Février 1957, quand je suis arrivée à Paris et que j'ai aperçu Bernard pour la première fois.
D'accord. Donc pour revenir en arrière, est-ce que vous pouvez me raconter un peu sur votre famille?
Alors, ma famille était une famille de petits paysans, une exploitation moyenne d'une trentaine d'hectares dans les coteaux du Gers, c'est-à-dire des pentes assez abruptes,
Oui.
des terrains argileux,
Oui.
et qui étaient souvent sujets, quand il y avait beaucoup d'eau, à des glissements de terrain. Donc, on avait
D'accord.
un terrain qui était assez vallonné, assez des fois difficile au niveau de la culture. Mais l'exploitation dans cette région était souvent le fait de paysans propriétaires et petits exploitants qui faisaient de la polyculture, c'est-à-dire qu'on avait de l'élevage, qu'on avait des céréales, qu'on avait de la volaille. Et il y avait dans la région un marché qui était le marché de Saint-Matan,
Oui.
Qui était un marché qui restait d'ailleurs, malgré l'effacement des marchés d'une manière générale en France, qui restait un marché toujours très florissant, qui était le marché des produits fermiers en dindon, poulet
Oui.
et surtout foie gras.
D'accord. Le marché de Saint-Martin.
Saint-Matan, Samatan.
D'accord.
Saint-Matan.
Et puis, donc votre père était propriétaire?
Oui, propriétaire exploitant.
Oui.
Avec des problèmes, mais on ne va pas rentrer dans ce genre de détails, mais ce qui se passait normalement, c'était l'héritage des parents avec cohabitation au niveau de la famille. Et ça a posé un certain nombre de problèmes dans ma famille. Ma grand-mère avait un caractère un peu difficile que ma mère n'a pas supporté, qui a donc fait qu'ils sont partis et qu'ils sont revenus, mais qu'ils se sont retrouvés tout seuls pour exploiter une ferme de 30 hectares, alors que d'habitude, il y avait quand même les grands-parents qui donnaient un coup de main, que ce
Ah,
soit pour aider
d'accord.
les enfants, que ce soit pour le travail et autres. Donc, un temps assez difficile au niveau de l'équilibre financier et de l'équilibre travail-famille, quoi.
Et pour les enfants, parce que vous avez combien de frères et
Nous
sœurs?
étions quatre.
Donc ça posait un problème pour la succession ou pour l'héritage ou
Non, non,
parce qu'il n'y avait pas de
l'héritage,
division, c'était une cohabitation, c'est ça?
c'était la cohabitation entre les parents. Et il y avait un des enfants qui restait.
Oui, d'accord.
Voilà, un des
D'accord.
enfants se décidait ou était choisi, c'était selon. Et il y en a un qui restait et les autres partaient. Voilà.
D'accord. Et c'est un peu pour cette raison que vous êtes parti à Paris.
Oui, bien sûr.
D'accord. J'ai lu quelque part que le père de Bernard Lambert était plutôt métayer, c'est
Il était
ça?
métayer dans une ferme du château qui était juste à 500 mètres.
C'était le château du marquis de la Ferronnays?
Non,
Non,
c'était
c'était pas lui.
le marquis, je ne sais pas s'il était marquis d'ailleurs, non, c'était une grande famille qui était donc dont certains étaient médecins à Nantes. C'était les deux Bureau. Ah si, peut-être deux Bureau, c'était en deux mots sans doute, je ne sais plus.
D'accord.
Je ne peux pas vous dire exactement.
D'accord. Vous avez fait, enfin, en tant qu'étude, vous avez fait
Alors moi
les...
j'ai fait 2 années de cours complémentaires à l'époque,
Oui.
ce qui doit ramener à un niveau de c'était dans
C'était 15 ans à peu près.
14-15, oui, c'est ça, 15 ans, c'est-à-dire pour obtenir un BEPC, mais je n'ai pas été jusque-là, c'était une pension religieuse, alors que moi j'avais été à l'école de la commune qui était mixte d'une part, et puis c'était pas des religieuses, c'était une école laïque, donc l'adaptation fut très rude, et j'ai abandonné au bout de 2 ans.
L'adaptation dans le milieu laïque
Non,
ou dans
dans
l'école.
l'inverse.
Hein? Parce que j'ai pas suivi.
J'étais dans une école communale publique
Oui.
et j'ai été interne parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. J'étais pensionnaire dans une école de religieuse.
Ouais, d'accord. Et donc, dans quelle ville? Parce que
À Saint-Matin.
ça, ah, d'accord.
Voilà.
Donc, vous n'avez pas.
J'ai
Parce
pas.
que
Je
vous
me
êtes
suis.
séparé de votre
Je.
famille ou.
Des tas de. Je ne sais pas. Oui, sans doute. C'était difficile. On rentrait tous les 3 mois.
Ah bon?
Ah bah oui. Ben oui, il y avait 12 kilomètres.
Oui, mais 12 kilomètres, c'est pas 100 km. Mais
Mais non, mais
à
en 1900,
l'époque.
on le faisait en vélo, monsieur. Mais j'étais capable de faire 17 km en vélo, mais tous les jours, c'était un peu
Oui,
beaucoup.
d'accord. Mais vous n'avez pas le droit de rentrer tous les week-ends
Non,
ou tous
non,
les 15
non, non, non,
jours
c'était pour les vacances, point.
ou... Oh, d'accord.
Je pense que le câble est
Oui, d'accord. Je vous enlève ça rapidement. Voilà. Hop. Formidable, merci.
Est-ce que vous prenez du
Non,
sucre?
merci, comme ça, comme
C'est
ça.
très bien. Il y en aura d'autres si vous voulez. Vous pouvez prendre le temps de le voir.
Non, non, non,
Non,
non,
non, on est parti,
non.
on n'arrête
Je peux
plus.
faire deux choses à la fois,
D'accord,
voilà.
d'accord.
De toute façon, c'est surtout vous qui parlez. Alors, Bernard Lambert, lui aussi, il a eu une sorte, il a eu plutôt une éducation religieuse, enfin,
Oui, surtout plus que moi, puisque
libre.
à l'époque, en Loire-Atlantique, la majorité des écoles étaient des écoles religieuses,
Oui.
qui dépendaient en tout cas des sœurs, des frères, etc. Et l'école communale, il y avait entre 10 et 20 élèves, c'est tout, alors qu'il y en avait 300 à l'école privée.
D'accord.
Voilà, donc tout le monde allait à l'école privée. Il a été après, pendant 2 ans, je crois que c'est Ancenis, je ne sais plus quel est l'ordre, s'il a été d'abord à
J'ai
Nantes ou.
noté Collège
Oui,
Saint-Joseph
Saint-Joseph.
à Ancenis,
Oui.
et puis
Arrêt pendant 2 ans pour maladie, puisqu'il a eu la tuberculose.
pendant 2 ans.
2 ans,
Ah oui,
oui.
c'était quelle année vous...
Alors là, écoutez, je ne peux
Enfin,
pas
c'était
vous
pendant
dire
la guerre
tout.
jusqu'à la fin de
Oui,
à la fin
c'était
de la
pendant la
guerre.
guerre, pendant 2 ans, 40. Là, je ne sais pas exactement.
Ouais, d'accord. Et puis il a fait des
Et
études
il
à
est
Nantes.
reparti à Nantes après, et il a arrêté parce que en fait, il avait été à Saint-Joseph et puis à Nantes après sur l'appui du curé parce qu'il voulait être missionnaire.
Oui.
Et ayant tout d'un coup découvert que vraiment sa vocation, ce n'était pas du tout ça, ils ont arrêté les études au mois d'avril, je crois, en pleine année.
C'est le curé qui voulait qu'il soit missionnaire ou c'est Bernard Lambert qui
Bah,
voulait...
un missionnaire était passé qui avait parlé de l'Afrique ou je ne sais plus de quoi, et il avait été enthousiasmé, n'est-ce pas?
D'accord. Donc, il a quitté l'école vers 50, pardon, 46, c'est ça?
Oui, je pense, 45-46, oui, je sais pas exactement là.
Et puis, il a repris l'exploitation de son père
Oui,
avec son père, c'est ça?
avec son frère, oui. Et ça a été, il a dû reprendre en 51, si mes souvenirs sont bons.
Oui. Alors, ce qui.
51, 52,
Oui,
j'ai
d'accord.
pas. Oui, j'ai pas. Moi,
Moi, j'ai
je
trouvé
n'ai.
52, mais ça peut être
Oui,
51. Enfin,
c'est dans ces eaux-là.
oui.
Je pourrais le retrouver si je regardais les. Je dois avoir un bail là, qui avait été fait à
Ah bon,
l'époque.
d'accord.
C'est possible, oui. On peut le regarder après.
Et donc, il n'était plus métayer, il était plutôt fermier, c'est
Alors,
ça?
quand ils ont repris. Mon beau-père était métayer.
Oui.
Mais quand ils ont repris avec son frère, ils ont exigé d'avoir un fermage, puisque les lois sur le fermage étaient passées il n'y avait pas très
Ah,
longtemps.
d'accord. Et donc, la ferme à eux, c'était une ferme.
37 hectares,
Oui.
qui étaient surtout, c'est-à-dire que eux, l'ont surtout reconverti en production laitière. Avant, c'était polyculture élevage un petit peu, plutôt.
D'accord. Et puis, pour tous les pour le tous les deux, le passage par le Jacques et le Jacques F
Oui.
a été très important, c'est ça?
C'était des mouvements d'action catholique, d'accord, mais c'était aussi, je crois, très lié à tous ces mouvements qui ont suivi la guerre et qui étaient des mouvements d'action populaire, finalement.
Oui.
Qu'on s'occupe, les foyers ruraux, au niveau du laïc, les peuples et cultures. Il y a eu beaucoup de choses en France, en tout cas, pour essayer de mettre en route c'était les mouvements d'action populaire qu'on appelait, hein.
Oui,
Je sais pas si...
c'était pour l'éducation, c'était pour
C'était
la
pour
culture,
l'éducation,
c'était pour
voilà, c'était pour l'éducation.
mais c'était aussi pour la
Pour le
profession.
loisir, c'était pour la profession et pour le loisir, les deux
D'accord.
ensemble.
Et c'était essentiellement dans chaque village, il y avait quelque chose qui était dirigé par le
C'était
curé ou...
très variable selon les
D'accord.
régions.
Oui.
Quand on était en Loire-Atlantique, ce n'était pas les curés qui s'occupaient des jeunes, c'était les vicaires,
Les
souvent.
vicaires, oui.
En opposition, souvent avec le curé, d'ailleurs.
D'accord.
Parce que les groupes d'action catholique entraient en concurrence avec les groupes Enfants de Marie et autres.
Ah oui, parce que les groupes enfants de Marie,
C'était
c'était
très dans le cadre de l'Église.
traditionnel.
Oui, très traditionnel, oui. Spirituel d'abord, n'est-ce pas?
D'accord,
Oui?
d'accord. Vous avez fait partie des enfants
Pas
de
du tout. J'ai une tête de bien parmi des enfants
Je ne
de
sais pas, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Non, mais c'est juste pour.
Pour vous informer,
Non,
d'accord.
mais c'est juste pour voir le conflit qu'il y avait
Oui,
entre
oui, oui.
de voies possibles.
Ouais. Non, mais c'était très traditionnel. Les autres étaient beaucoup plus à l'engagement des jeunes dans le travail, dans le loisir, etc.
D'accord. Et puis, mais avant, Bernard Lambert est parti en Algérie
Oui,
avant de faire votre
oui,
connaissance.
juste avant.
Juste avant.
Ouais. Il rentrait d'Algérie la première fois que je l'ai rencontré.
Et il avait eu une expérience assez dure en
Assez
Algérie.
dur, parce qu'il avait fait partie des rappelés.
Oui.
Faisait partie des rappelés, et ils avaient refusé de rejoindre leur campement comme il était demandé. Donc ils ont retardé les trains, ils ont fait des tas de manifs de ce genre, quoi. Donc il a été en Algérie ensuite dans des régiments disciplinaires, et donc confronté à des choses assez rudes.
C'est-à-dire...
Ben, c'est-à-dire qu'ils étaient appelé, il leur est fait ce que une armée qui veut casser des mecs, voilà
Ouais,
ce que ça peut
d'accord.
donner, hein. C'est-à-dire des marches, des choses comme ça,
Ouais.
jusqu'à et il est resté là-bas quelques mois, je ne sais pas combien de temps exactement, mais il a été rapatrié après une dysenterie amélienne qu'il avait mis sur la paille, c'est carrément. Et donc.
D'accord.
Ouais.
Sa santé n'était pas très bonne, c'est ça
Si, il avait une bonne santé, mais il n'a pas résisté à ce genre de choses. Ouais, je crois qu'il y avait des conflits, il y avait autant des problèmes de dureté au niveau de ce qu'on leur demandait que de conflits par rapport à l'armée elle-même et à ce qu'ils étaient amenés à faire. Et il a été récupéré une mule, ce qui lui a valu la croix militaire.
Oui.
Ouais, bah oui, mais sans quoi je pense qu'autrement il aurait fait la tôle, quoi.
D'accord. Oui. Et puis il est revenu à Paris ou dans sa famille
Il est revenu à Paris et dans sa famille. Il faisait les deux à la fois, si vous voulez. C'est-à-dire que quand il était à la JAC, il était. Il avait une permanence sur Paris, mais il revenait, puisqu'il était exploitant en même temps, aider quand il y avait des gros travaux.
D'accord. C'était toujours la GAC, parce qu'à ce moment-là,
en 1956, je pense que c'est en 1956, qu'il a dû être au Centre national des jeunes agriculteurs, secrétaire général adjoint.
Oui. Parce que ce Centre national des jeunes agriculteurs, c'était une sorte de section de la FNSEA, c'est ça?
Alors,
comment ça se passait?
Alors, en fait, il y avait à l'époque, est-ce que je saurais vous donner ça avec précision, c'est pas sûr, je vais essayer. Il y avait les cercles des jeunes qui étaient dans le cadre de la profession des groupes de jeunes qui s'intéressaient au niveau professionnel à ce qui se faisait, qui étaient un peu parrainés par la FNSEA, qui étaient aussi plus ou moins liés aux foyers ruraux. Enfin, c'était assez vague, tous ces trucs-là. Oui. Et Michel de Baptiste, entre autres, avec un groupe de la JSC, ont élaboré la possibilité pour des jeunes d'avoir le Centre national des jeunes agriculteurs,
oui.
Ou le cercle, je ne sais plus si c'était, mais avec possibilité d'avoir des représentants directs à l'intérieur de la FNSEA.
D'accord. Donc c'était nouveau à l'époque.
C'était complètement nouveau.
Et c'était vers 56-57.
Écoutez, je peux retrouver les choses, vous les retrouverez, oui, c'est ça, oui.
Oui, d'accord. Et donc c'est à ce moment-là que vous avez fait sa connaissance.
Oui.
D'accord.
En 57.
Et comment ça se passait à Paris en tant que responsable national? Vous étiez dans un
logements... Il y avait deux lieux différents, un lieu, oui, pour les garçons, un lieu pour les filles, bien sûr.
Bien sûr.
On ne mélange pas tout.
Voilà.
Et donc, il y avait deux grands appartements dans lesquels avaient été aménagées des chambres. On était deux par chambre avec lit et bureau et on travaillait sur... selon les responsabilités qu'on avait, avec des réunions d'équipe. Et il y avait des réunions communes, JAC, JACF, au niveau des formations, entre autres.
D'accord.
Il y avait des journées de formation, tous les mois, je crois.
Et c'était à quel endroit, à Paris?
Ah, ça bougeait, ça. C'était selon
ça
les...
bougeait.
Oui, c'était... Il y avait des communautés religieuses qui accueillaient des groupes.
Oui.
Et ça se faisait souvent dans des choses comme ça. Dans
des
centres où il y avait... on était hébergés pendant deux ou trois jours, et puis...
Oui, d'accord, ouais. D'accord. Et puis... Donc, c'est à partir de ce moment-là, vous êtes reparti avec lui ou vous êtes marié en quelle année?
On s'est marié en 1959.
Oui.
En janvier 59.
Oui.
Parce qu'en fait, il a été élu parlementaire.
C'est ça.
Député en novembre 1958.
Oui. Vous pouvez m'expliquer un peu ça, que c'est un peu... Enfin, c'était une nouvelle qu'un...
Ah, c'était pas prévu, non.
C'était absolument... pas prévu. Comment ça s'est passé?
Bah, ça s'est passé, donc, élection... Qu'est-ce qui s'était passé? C'est De Gaulle qui avait dissous l'Assemblée nationale.
Oui, oui.
Et donc, réélection en novembre. Et il y avait sur la région de Châteaubriand... André Maurice, ancien oui. radical socialiste, qui se présentait.
Oui.
Et tous les jeunes de l'époque et une bonne partie de même de la droite n'en voulaient pas.
À cause de la guerre d'Algérie ou
à
autre
cause,
chose
à cause de ses positions... ses positions laïques radicales et surtout qu'est-ce qu'il avait fait ce mec, je ne sais plus.
Enfin, il n'était pas très populaire.
Il n'était pas très populaire, bien que ayant quand même une notoriété puisqu'il était, est-ce qu'il était élu député déjà de
il
la
était maire de Nantes, non?
Il était maire de Nantes, effectivement.
Oui.
Oui. Oui, vous avez toutes les informations.
Enfin,
c'est un peu loin pour moi, et puis comme je n'étais pas de la région, voilà. J'ai atterri là-bas. Hein.
Oui, d'accord. Donc, comment se fait-il
qu'il ait été
s'est présenté aux élections?
Donc, les gens n'en voulaient pas. Bernard était quelqu'un qui avait déjà eu un impact important au niveau des réunions de syndicats. Il était intervenu dans plusieurs meetings et il savait emballer les foules. Donc, les gens du coin lui ont dit « Mais tu devrais te présenter à Châteaubriand ». Contre André Maurice, il dit ça va pas, non, j'ai pas envie de me présenter et tout. Et ils sont venus le bousculer jusque chez lui en lui disant, ils sont venus en nombre. Et il a dit, je veux bien, mais à condition que ce soit vous qui organisiez toute la campagne. Moi, je ne m'en occupe pas. Il faut que vous soyez, vous vous engagez si j'y vais, vous vous engagez à préparer toute la campagne et à la faire avec moi.
D'accord.
Et donc, c'est ce qui s'est fait. Et c'est pour ça qu'il y a eu un fort engagement des militants.
Oui. Et c'était surtout des gens de la GAC ou de...
C'était des gens de la GAC, c'était des gens du syndicat agricole, c'était des gens qui étaient... oui, c'était tout ça, quoi.
D'accord. Donc, il était élu député
oui.
MRP
ou... Député... apparenté MRP la première fois.
D'accord. C'est-à-dire plus ou moins indépendant, mais dans
voilà.
la mouvance.
Oui, voilà. Il n'était pas très chaud pour s'accrocher au wagon MRP, mais quand il a été élu, d'abord il ne pensait pas être élu. Ensuite, quand il a été élu, il a fallu qu'il s'organise en fonction de ça, c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que à l'Assemblée nationale, on ne pouvait pas faire grand-chose si on n'était pas rattaché à un
oui,
groupe.
Voilà. Oui.
Donc, il s'est rattaché au MRP. Mais il s'est fait, comment dire, un peu renié par son groupe quand il a pris notamment les positions sur l'Algérie. Il n'a
voilà.
pas été soutenu par le groupe.
Parce qu'il avait eu un point de vue assez...
Ben, il avait parlé d'autodétermination sur l'Algérie. Oui. Il avait travaillé son discours avec un journaliste de l'Express qui s'appelait Barra, Robert Barra.
Comment ça s'écrit Barra?
B-A-2-R-A-T.
D'accord. Donc. C'était pas spontané son discours.
À l'Assemblée nationale, c'était pas possible. Hein, il fallait le préparer. Et en plus, il était très inquiet de parler devant cette tribune. Ce n'était plus un meeting devant la foule. C'était autre chose.
D'accord. Et il a été grondé par des anciens de l'Algérie française, c'est ça?
Il a arrêté son discours parce que Le Pen, la Gaillarde et puis un troisième, je ne sais plus lequel, sont venus jusqu'à la tribune pour essayer de le virer de là.
Tommaso, c'était l'autre?
Oui, je pense, oui, voilà.
Oui. Et c'était au cours d'un débat sur l'Algérie
Oui, c'était un débat sur l'Algérie.
Et est-ce que vous pouvez me dire quelque chose vous dites qu'ils savaient emballer les foules, ils savaient parler en public.
Oui.
Il y avait quelque chose, qu'est-ce qu'il avait comme personnalité pour pouvoir emballer les foules?
Il était très, comment dire, il parlait de choses concrètes et de choses que les gens pouvaient comprendre au niveau d'un public rural.
Oui.
Au niveau de l'Assemblée nationale, c'est autre chose. La preuve, c'est qu'il s'est fait virer. Il a compris que ce n'était pas le même, pas le même public. Mais parce qu'il était de ce milieu, parce qu'il avait, vécu cette histoire. Et j'ai eu une lettre assez émouvante au moment de son décès d'un paysan qui me disait « Bernard a été notre parole ».
Ah ouais, d'accord.
Parce que les paysans, il faut se mettre à la place de cette génération de paysans qui n'avaient pas le droit enfin qui n'avaient pas le droit, qui ne se sentaient pas le droit de parler.
Oui.
On était dans une situation, si vous avez vu certains documents, Bernard parlait de son père et qui parlait de notre maître,
etc. Oui.
Donc il y avait une domination et de l'Église et de l'aristocratie dans le milieu rural qui était très importante à Loire-Atlantique.
Oui.
Beaucoup plus importante qu'ici. Moi, je pouvais faire la comparaison entre les deux. Et cette espèce de soumission des paysans, parce qu'ils n'avaient pas tellement le choix. Comment ils faisaient s'ils n'étaient pas un peu dans la... Ils se faisaient virer des propriétaires. Il n'y avait aucune loi qui les protégeait jusque dans les années où il y a eu le fermage.
Oui, d'accord.
Voilà. Je crois que c'était ça la raison de cette espèce de sentiment d'infériorité et de pas pouvoir effectivement s'exprimer. Et donc ils avaient le sentiment que Bernard était leur parole à eux, qui pouvait s'exprimer.
C'était un ton naturel ou oui. Il avait une personnalité un peu fougueuse ou...
Ah oui, fougueuse, oui, sûrement.
Et puis il a fait des lectures.
Les deux ans où il a été malade,
oui.
Il était donc au lit,
chez lui,
pendant deux ans.
D'accord.
Et les propriétaires avaient une bibliothèque et la fille des propriétaires lui descendait des livres.
Ah,
c'est comme ça qu'il a lu. Je ne sais plus, il me l'avait dit, mais je ne me rappelle plus. Mais enfin, qu'il a eu une littérature qui lui est arrivée comme ça.
D'accord. Mais après ce discours à l'Assemblée nationale, il a été viré, vous dites, par son parti ou...
Non, il est resté, il a été toléré, mais je sais qu'il y a plusieurs interventions qui étaient plus ou moins... Il a eu du mal à se resituer dans ce groupe-là.
Oui, il a été battu en...
Il a été battu en 62.
62. Et pendant ce temps-là, vous avez vécu à Paris. Comment ça s'est passé?
Alors, la première année, nous sommes restés sur Paris. Enfin, c'est-à-dire que il était associé toujours avec son frère.
Oui, d'accord.
Sur l'exploitation. Et ils avaient aménagé dans la maison une pièce pour... on avait deux pièces et mon beau-frère et ma belle-sœur avaient aussi deux pièces.
D'accord.
Donc, on était soit à Paris, soit sur l'exploitation, quoi. C'était l'un ou l'autre, selon qu'il y avait des sessions parlementaires ou pas.
D'accord.
Parce qu'il y avait des sessions parlementaires, mais il y avait aussi toute la relation qu'il a voulu établir avec ses électeurs, c'est-à-dire qu'il a fait, il avait un secrétariat.
Oui.
Pour répondre aux courriers, d'une part, et à chaque fin de session parlementaire, il rédigeait un bulletin qu'il envoyait à tous les électeurs.
D'accord.
Et pendant l'hiver, il refaisait après des réunions pour une information, une à peu près par canton. C'était son souci d'avoir un lien direct avec les électeurs.
Et pourquoi pensez-vous qu'il a été battu en 62?
Parce que son élection était un accident.
Oui.
Que toute la droite s'est réveillée parce qu'ils ont bien vu qu'il n'avait pas fait, à un catho très, très classique.
D'accord.
Catholique, d'accord, mais bon, il l'appelait le diable rouge dans le bénitier.
Ouais, d'accord.
Hein, voilà.
D'accord.
Si tu
oui, 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 d'accord. Il sait qui, enfin, les
Mais c'est les adversaires
classiques.
politiques,
Oui.
oui.
D'accord. Donc il est revenu dans la région.
Sur l'exploitation.
C'était toujours à Théier
Oui,
ou...
toujours à Théier. On n'a pas bougé de Théier.
Et il a rejoint le PSU?
Il a rejoint le PSU en 66, si mes souvenirs sont bons.
Oui, parce qu'il avait, on l'a invité ou il a trouvé que c'était le parti pour
On
lui?
avait, on participait, j'avais participé avec lui d'ailleurs, à des sessions de formation qui avaient lieu l'été, qui étaient faites par Économie et Humanisme,
Oui.
c'était des Dominicains, et ça avait lieu tous les étés, on y a été 3 ou 4 années de suite au moins, et je sais qu'on avait rencontré là des gens qui était à l'UGS à l'époque, qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait 3 ou 4 petits partis de ce genre qui se sont regroupés pour faire le PSU après.
D'accord.
Et donc, ça a été un peu les. Il y avait ça. Il y avait aussi organisé sur. Mais ça, Médard a dû vous le dire, et Guy aussi. Il y avait organisé sur Nantes les week-ends de formation. Auxquels participaient 80 à 100 personnes facilement, avec tous les religieux qui étaient à la pointe de ce qu'on pouvait dire au niveau de l'Église, qu'ils soient dominicains, jésuites ou autres, du moment qu'ils avaient. Il y a dû y avoir Congar, il y a dû y avoir. Qui encore?
Blancard?
Congar, je crois,
Oui,
oui.
mais aussi Paul
Paul
Blancard.
Blancard. Bien
Oui.
sûr, Paul Blancard, avec qui on a gardé de très bonnes relations. Qui encore
Jean Cardonnel, vous avez
Oui,
rencontré Jean Cardonnel?
possible,
Oui,
oui.
possible.
Oui, c'est possible, oui.
Expliquez-moi.
Je ne sais plus exactement, mais Guy doit avoir tout ça, hein.
Oui. Mais économie et humanisme, c'était un petit groupe ou c'était
C'était
une
des
revue ou...
Dominicains. C'était Dominicains et une revue. Ils avaient une revue qui s'appelait Économie et Humanisme.
D'accord.
Et qui était à Caluire dans le Rhône, à côté de Lyon.
Ah, d'accord. Là où Jean Moulin a été arrêté. Et donc, vous deux, vous avez fréquenté ces week-ends
Oui.
pour
Parce
quoi
qu'on
faire, pour ce que vous
avait
voulez?
une soif d'aller vers autre chose que ce que. On était dans une commune où, quand je suis arrivée, c'est-à-dire en 59, 90% de la population allait à l'église une fois par semaine, si ce n'était pas plusieurs, et à vêpres, etc. Bon, avec des choses très classiques et des choses qui, moi, m'ont fait hurler par moments, c'est-à-dire on allait à l'église, mais on tapait sur le dos des gens pour les au niveau de leur réputation, surtout on n'acceptait pas le partage, on était, enfin, c'était vraiment des choses très très fermées, et moi je ne supportais plus.
Le partage des fermes, ou le partage de quoi?
Mais on n'arrivait pas à échanger avec les gens
D'accord.
de manière libre. C'était
Oui,
toujours les
d'accord.
camdira-t-on, chacun
Chacun
dans
dans son
son.
coin.
Oui, bien
Oui,
sûr.
d'accord. Donc vous étiez à la recherche d'un monde, je sais pas, un monde différent,
On
enfin.
était à la recherche d'un monde différent, d'un monde plus juste, d'un monde qui aurait permis à. Parce qu'on côtoyait quand même dans le milieu rural, c'était la misère du monde, peut-être pas que là, puisque dans le milieu ouvrier aussi, mais les petits paysans qui étaient obligés de quitter leur ferme et qui se retrouvaient avec. J'ai vu un jeune marié qui devait avoir un ou deux enfants, qui a été obligé de laisser sa ferme. Il a trouvé un travail de. Est-ce que c'était la maçonnerie? Il devait gagner à l'époque 900, je crois que c'est, je ne sais plus quel était le SMIC à l'époque. Je
bon,
je
donc,
crois,
le, non,
je 900 francs, je crois.
Ouais,
je crois que c'est de cet ordre-là. Et il en laissait 50 pour rembourser les dettes qu'il avait.
Bon, d'accord.
Voilà. Alors, on côtoyait tous les jours ce genre de choses. On était confrontés à tous les problèmes que les paysans rencontraient dans leur vie professionnelle. C'était une période où les gens n'étaient pas particulièrement aidés à ce moment-là.
Et pour décrire ces situations et pour expliquer tout ça, j'ai lu quelque part que Bernard Lompert a trouvé une sorte de il a découvert le marxisme,
oui.
Les questions, enfin, la lutte de classe,
oui.
Et aussi je trouve que quand il parle de la Bretagne et des problèmes des agriculteurs, il parle assez souvent de la colonisation, comme si la Bretagne était un pays colonisé par la France plus avancée, c'est ça?
Je ne sais pas si c'est exactement. Enfin, ce qui était à nos yeux criant, c'est que il y avait une région qui était le bassin parisien.
Oui.
Qui était très riche,
oui.
Qui faisait la loi au niveau aussi bien du syndicat que de la politique agricole.
Oui.
Et le problème des éleveurs n'était pas du tout pris en compte. Et toute la Bretagne était quand même une région d'élevage et de production laitière, surtout. Et toutes ces régions-là, toutes les régions excentrées ne se sentaient pas très prises en compte au niveau de tous leurs intérêts, quoi.
Et puis les paysans devaient vendre leur lait à des entreprises, enfin des grosses,
oui,
entreprises,
oui.
Oui. De lait.
Le lait était vendu soit à des entreprises laitières, soit à des coopératives.
D'accord. Et les coopératives étaient gérées par des paysans ou non?
Étaient gérées par des paysans, oui.
D'accord.
Sauf qu'au bout d'un moment, quand elles prenaient une certaine extension, qu'elles avaient une certaine importance, c'était surtout les techniciens qui reprenaient le pouvoir là-dedans.
D'accord.
Parce que un paysan qui allait au conseil d'administration, même si c'était toutes les semaines, il n'était pas là pour gérer tous les jours. Hein.
D'accord.
Il prenait évidemment les grandes décisions, mais il prenait les grandes décisions qu'on leur ait fait un rapport de ce qui se passait pour savoir,
d'accord,
ce qu'il fallait prendre.
D'accord. Et c'était aussi le moment du cercle Jean 23. Vous avez un souvenir du cercle,
oui,
de Jean 23,
oui, le cercle
de Guy Gouraud?
Oui.
Vous étiez là-dedans?
Est-ce que c'était la même chose? Je ne sais pas si c'était la même chose que les réunions qui étaient faites dont je vous parlais tout à l'heure, une fois par an, là, avec...
Oui.
En tout cas, il y avait une certaine communication entre ces deux choses, je,
oui,
pense.
Oui, d'accord. D'accord.
Mais c'est surtout Bernard qui était en tant que membre actif. Parce que... pour deux raisons, c'est qu'en fait, moi j'étais partante pour travailler sur ce terrain-là, mais le problème c'est que nous avions quatre enfants.
Bien sûr, oui.
Hein? Une exploitation agricole, et que quand il y en avait un qui était pris pour des responsabilités, l'autre essayait de combler par derrière.
D'accord, je comprends.
Oui, vous voyez, hein, voilà.
Alors, est-ce qu'on peut venir à 68? Parce,
oui,
qu'il y avait pas mal de manifestations,
oui,
de discours.
Oui.
Quels sont vos souvenirs de 68 en Loire-Atlantique?
Souvenir de 68 en Loire-Atlantique. Premièrement, le souvenir que c'est quelque chose qui n'est pas tombé du ciel comme ça.
Oui.
C'est que depuis longtemps, il y avait des rencontres ouvriers et paysans.
Oui.
Qu'il y avait même eu, je crois que c'était le 8 mai, une rencontre, une manif, une grosse manifestation à Nantes,
oui,
qui rassemblait ouvriers, paysans et étudiants,
oui,
avant Paris.
Oui, d'accord, oui.
Hein? Donc, c'était il y a longtemps que les gens travaillaient à ce rapprochement, depuis déjà un certain temps, d'une part. Et d'autre part, ça c'était au niveau des syndicats d'exploitants, mais moi j'étais à l'époque dans le bureau du centre départemental des jeunes agriculteurs.
Oui.
Et j'étais chargée, comme les femmes d'habitude, c'est-à-dire des problèmes dont les garçons n'avaient pas trop envie de s'occuper, la presse, l'enseignement, etc., les questions sociales.
D'accord.
Donc, on avait préparé un travail, d'ailleurs avec Guy Gouraud, sur l'enseignement. À l'époque, c'était la période où se décidaient les problèmes de carte scolaire. Et nous avions défendu l'idée que il ne fallait pas qu'il y ait une multitude d'instituts de formation comme ce qui existait, c'est-à-dire qu'on pouvait trouver dans un canton, à Loire-Atlantique à l'époque, un CEG garçon, un CEG fille libre, un CEG garçon, un CEG fille laïque, plus une maison familiale et éventuellement d'autres choses. Donc on estimait que ce n'était pas avec une dispersion pareille qu'on pouvait avoir une offre de qualité au niveau de l'enseignement des jeunes paysans.
D'accord.
Donc, on avait fait des réunions d'information dans l'hiver 67-68, dans le mois d'octobre-novembre. On a dû faire 5 ou 6 réunions d'information en Loire-Atlantique avec Guy Gouraud,
oui,
pour expliquer justement quels étaient les enjeux de cette carte scolaire. Qui nous paraissait important de passer par-dessus les problèmes de école libre, école publique, pour avoir des instituts qui soient valables et qui rassemblent tout le monde.
Oui.
Cette théorie a été assez avancée, puisque au niveau pratique, on est arrivé, je crois que c'était en 68 ou 69, je ne sais plus, à une école élémentaire. Là, c'était sur les CEG, c'est différent, mais une école élémentaire qui rassemblait, avec l'accord des publics et du privé, à La Rouxière.
Ah, comment ?
La Rouxière.
Oui, La Rouxière.
Oui.
Qui se trouve où ?
Qui se trouve en Loire-Atlantique, où il y avait Bernard Tarot. Vous avez dû en entendre parler.
Oui,
peut-être.
D'accord.
Voilà.
Oui. Donc, c'était une école élémentaire un peu
phare. Avant-garde, oui.
Avant-garde, modèle.
Oui, mais l'enseignement catholique,
j'allais demander parce que vous avez menacé l'enseignement libre comme ça.
Voilà, et absolument. Et ils ont fait des contre-réunions partout d'ailleurs pour dire le contraire. Et mais là, ils n'ont pas pu empêcher cette. Mais ils l'ont bloqué à ce niveau-là. C'est resté un embryon ou disons une expérience qui est restée sans résultat.
Voilà. Mais ça, c'était au niveau élémentaire ou,
ça, c'est,
ou
ici,
au niveau
alors,
du collège.
Nous, au niveau des réunions d'information qu'on avait fait, on l'avait fait au niveau des collèges. Mais à La Rouxière, il l'avait fait au niveau élémentaire.
D'accord. Mais comment dirais-je, pour expliquer la solidarité entre ouvriers, paysans et étudiants, les étudiants n'étaient pas plutôt dans un autre monde, c'était plutôt des bourgeois, non, ou est-ce qu'il y avait des fils et des filles de paysans qui rentraient à la faculté?
Il y en avait sans doute quelques-uns, mais très peu à l'époque.
Oui, oui.
Très, très peu. Et je pense que ce qui se faisait au niveau de la région, entre autres, c'est plutôt l'unité ouvrier-paysan, c'est-à-dire
oui.
Ce qui avait rassemblé. Mais comme les étudiants étaient en marche ailleurs, ils se sont joints à nous.
Parce qu'il y avait une intersyndicale, c'est ça, qui a réuni les syndicats.
Alors, il y avait d'abord des rencontres qui avaient été entre les ouvriers, les syndicats ouvriers et paysans, en
oui.
disant nous avons des intérêts communs, on a essayé de nous monter les uns contre les autres en disant aux paysans que les ouvriers étaient des feignants parce qu'ils prenaient des congés tout le temps, aux ouvriers que les paysans étaient propriétaires, qu'ils avaient du fric, etc. Or, on se rend compte que les uns et les autres sont dans la dèche et que dans nos régions, si on ne fait pas quelque chose ensemble, on sera éliminé et puis c'est tout.
Voilà.
Je me rappelle très bien que les grands thèmes de l'époque, c'était l'arc du développement passé par l'Allemagne, la vallée du Rhône et toutes ces régions-là, et que toutes les régions excentrées de notre côté étaient loin de la communication et loin de Paris, donc difficile d'accès, et donc si on ne faisait rien, on était complètement laissé à l'abandon. Voilà, c'était les grands thèmes, hein, en gros.
En gros.
Oui, oui. Très gros.
Donc il y avait cette manifestation du 8 mai,
oui.
Où Bernard Lambert a parlé.
Bernard Lambert a parlé, Gilbert Declerc, CFDT a parlé, qu'est-ce qui a parlé encore, hein? Quelqu'un de l'enseignement a parlé, hein, je crois aussi.
Un étudiant?
Je ne sais pas si c'est un étudiant ou un professeur.
Yvonne Chotard?
Plutôt, oui.
Ouais.
Peut-être, oui. Bon, ça, j'ai pas...
Non, mais ça ce oui. sont des détails que je
oui,
peux vérifier,
d'accord.
Mais aussi,
oui.
il y avait d'autres... D'autres, il y avait une manifestation le 13 mai ou place de la Duchesse Anne.
Il y a eu plusieurs manifestations après, c'est-à-dire.
Il y a eu la grande manifestation du 24 mai où les paysans sont arrivés avec leurs tracteurs.
Oui.
Vous avez un souvenir de ça?
Oui, bien sûr, oui.
Comment ça s'est organisé?
Celle du 24 mai, c'était les syndicats qui l'avaient organisé. Il avait été décidé qu'il y aurait 4 marches, je crois.
Oui. 4 chemins, 4 routes.
Enfin, ça, oui. c'est à voir exactement. Mais enfin,
oui.
il venait de plusieurs points.
Oui.
Il venait de la région de. Région Châteaubriand, Ancenis, etc. Région Guérande, etc.
Oui.
Région Machecoul et région des Vignes de l'autre côté. Quoi. C'est-à-dire
oui, oui.
il y avait plusieurs axes de convergence pour venir sur Nantes
oui.
avec des tracteurs. Et bon, voilà.
Et c'était un moment où le pouvoir chancelait. Vous avez l'impression?
Le 24, c'est-à-dire que tout le monde était un peu en effervescence, on entendait les infos, etc. Donc ça alimentait effectivement l'enthousiasme un petit peu des manifestants.
Oui, oui. Et puis il y avait donc cette grève générale et c'était le moment où... les paysans approvisionnaient la ville, qui, c'est ça?
Oui, entre-temps, il y avait eu les grèves donc des ouvriers, les fermetures de donges et des endroits où était distribué le carburant.
Oui.
Et donc, il s'est constitué un comité de je ne sais plus comment il s'appelait, mais enfin, c'est un comité départemental pour gérer la distribution du carburant.
Oui.
Alors, Médard a dû vous en donner des éléments.
C'est
là.
Le comité central de grève.
Voilà,
Qui était à la mairie.
Voilà.
C'est ça.
À la mairie ou ailleurs, je ne sais plus.
Oui,
je sais qu'ils
d'accord.
étaient. Voilà. Mmh. Ils géraient le carburant. Et il avait été convenu que. Parce que les paysans, c'était en plein mois de mai, il y a des travaux. Les paysans qui avaient des élevages, les paysans qui avaient des tracteurs à alimenter, il a été décidé qu'il y aurait du carburant qui serait distribué aux paysans pour qu'ils puissent faire leur travail, et que de leur côté, les paysans distribueraient de la marchandise à prix coûtant aux ouvriers qui étaient en grève.
Et
il y avait des points de distribution. Il y en avait un à Nantes, à l'entrée de Nantes. Là, enfin, il y avait plusieurs
oui.
points de distribution.
Et vous, qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là?
Je gardais les enfants et je venais en manif.
Voilà.
Venais en manif. Je participais quand il y avait des réunions au niveau du bureau départemental.
Oui.
Mais bon, je pouvais pas y être tous les jours.
Exactement.
Hein, c'est pas possible.
Voilà.
Et j'avais une image, enfin c'était plus après, parce que quand on a eu l'élevage avicole, il fallait qu'il y ait toujours quelqu'un à la maison.
Oui.
Alors je disais, nous sommes comme les baromètres, vous savez, les baromètres avec un petit bonhomme et une petite bonne femme, quand il y en a un qui rentre, l'autre sort.
Ah oui,
hein?
Voilà.
Et moi je disais, mais on est comme ça, quand c'est moi qui vais à l'extérieur, c'est Bernard qui reste, quand c'est Bernard qui va à l'extérieur, c'est moi qui reste.
D'accord, c'est bon. Et est-ce que vous avez l'impression que... Vous avez gagné, enfin les agriculteurs, les ouvriers ont gagné quelque chose à la suite de ces manifestations, de ces grèves, ou est-ce que tout cela a tombé en miettes?
Mon sentiment personnel.
Oui.
Mon sentiment personnel, c'est que, bon, il y a eu un effondrement énorme le jour où il y a eu la contre-manifestation des gaullistes qui oui. ont dévalé dans les rues de Nantes. On a dit, ah, oh, ça c'était le coup un peu dur. Les gains, c'est une prise de parole, une prise de conscience des gens. Il y a eu des choses qui ont bougé à partir de là.
Oui. Qu'est-ce qui a bougé?
Plus les mentalités. Plus les mentalités que les gains matériels. Le sentiment que on pouvait se battre,
Oui.
Moi, j'ai eu, c'est-à-dire que ça a été pendant les périodes, si tu veux, le sentiment que on pouvait prendre, il y avait une liberté de parole.
Oui.
Qu'on n'avait pas autrement. Là, c'était assez extraordinaire de se retrouver avec des gens qui n'étaient pas que des paysans. C'était ce mélange des ouvriers, des étudiants qui étaient. Moi, j'ai mis les pieds à l'université à cette période pour la première fois. J'y avais jamais été autrement. Je sais pas où elle était.
Et qu'est-ce que vous avez trouvé?
Eh ben, ces débats, c'était un peu fou, mais enfin, c'était toute cette effervescence, ces débats, c'était assez passionnant et assez étrange pour quelqu'un qui n'a pas fait d'études, quoi, qui n'était
oui,
pas.
Oui, mais vous êtes senti proche de ces étudiants avec leurs cheveux longs, etc. Mais ils étaient quand même dans le même combat.
Ils étaient dans le même combat, donc on avait le sentiment qu'ils pouvaient aussi nous apporter quelque chose. Quoi, les étudiants ou les intellectuels par rapport à la réflexion. Je crois qu'après 68, on a eu envie d'être plus proche de ce milieu intellectuel pour savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient nous apporter. Avec une certaine méfiance après. Quand c'est vrai que quand il y a eu quand même des vagues de jeunes qui ont débarqué dans les campagnes et qui venaient nous apprendre ce qu'il fallait croire et pratiquer, au bout d'un moment,
Vous avez eu des Mao chez vous?
Oui.
Oui.
Oui, oui, oui. Enfin, chez nous, dans le département. Dans le département, il y en a eu, oui.
Oui.
Ils ont fait des longues marches, bien sûr.
Et vous avez pensé qu'ils étaient un peu fous ou
à côté qu'ils de exagéraient un peu,
oui.
Mais qu'il y avait peut-être des choses qu'il fallait pas rejeter d'un bloc.
Qu'est-ce qu'ils disaient?
Oh là là, enfin, ils parlaient de tout. Hein. Oui, c'était oui. C'était les relations dans le couple, les relations, le fait de venir travailler avec les paysans ou avec les ouvriers, on trouvait ça pas mal quand même.
Oui.
Qu'il y ait des gens qui soient étudiants, mais qui viennent aussi mettre la main à la pâte, c'était quelque
Qu'est-ce
chose...
Qu'est-ce qu'ils racontaient sur les rapports de couple? Ils étaient tous pour l'amour libre, tout ça?
Oh oui, souvent, oui.
Ça vous a choqué?
Non. Il y avait déjà pas mal de choses qui circulaient à l'époque. C'est pas venu comme ça. Le Nouvel Observateur avait fait des articles sur ces problèmes-là depuis déjà un petit moment. On recevait le Nouvel Observateur à la maison.
D'accord.
Donc, c'était pas des choses qui nous choquaient. Ça veut pas dire qu'on adhérait à fond, mais on était observateurs, disons.
D'accord. Mais vous étiez quand même, je ne sais pas, est-ce que vous étiez quand même vous n'étiez plus une famille catholique traditionnelle, comment dirais-je?
On était plus traditionnel dans le sens où étaient les familles traditionnelles de Loire-Atlantique et qui allaient à la messe tous les dimanches, etc.
Oui, d'accord.
Mais on a fait notre rupture, parce qu'on a fait une rupture avec l'Église catholique, mais on l'a faite un peu plus tard, dans les années 72.
Vers quel moment?
72. Oui, à peu près.
Pour quelle raison?
Parce que tout le reste avait mûri et qu'on avait fini par trouver que ça suffisait, que on le bourrait le mot avec toutes leurs histoires, puis c'est tout.
Donc quand vous dites rupture avec l'Église, c'est-à-dire que vous n'alliez plus à la messe?
Voilà.
Mais il y avait quand même des gens...
Nos enfants ont été à l'école publique, ça a été un grand drame dans la commune.
Ah oui, d'accord. L'école sans Dieu?
Comment? Ah oui, l'école sans Dieu, bien sûr.
De l'école sans Dieu?
Oui, l'école sans Dieu, oui. Non, mais si, c'est sûr que c'était quelque chose de... Mais, c'est-à-dire qu'on avait déjà mis nos filles à l'école du canton, un peu plus loin. Il fallait qu'elles prennent le car, qu'elles aillent là-bas. Ça n'avait pas provoqué de vagues particulières.
L'école publique du canton?
Oui, l'école publique du canton.
Parce que les filles qui sont nées en quelle année?
60-61.
D'accord. Donc, école publique élémentaire?
Oui, c'était un cours... Au cours moyen, je crois, quelque chose, CM2, quelque chose comme ça.
Oui, d'accord.
CM1, CM2, ils ont dû aller à l'école
et
là-bas.
Vous l'avez fait à distance pour ne pas choquer les gens du coin, c'est
oui,
ça?
Oui, Bernard avait très peur. Il avait peur, en fait, pour lui, mettre les enfants à l'école publique, c'était se couper de la population. Parce qu'il avait vécu, lui, les différends qu'il pouvait y avoir entre les enfants de l'école publique et de l'école privée. Ceux de l'école publique étaient complètement coupés de la commune, parce que l'école libre faisait du théâtre, faisait des tas d'activités, et les autres, ils n'étaient pas rattachés à ce genre de choses. Donc, pour lui... c'était couper ses enfants d'un milieu social, quoi. Moi, j'étais beaucoup plus réservée, j'étais contre toute leur méthode éducative qui me donnait des boutons, et donc...
Parce que vous êtes humiliée, c'est évident.
Et voilà.
Ici, c'est un pays plus
laïque.
Plus laïque,
oui.
Plus radical. Enfin, c'est le grand terrain
c'est les Ratsok ici, oui.
Oui, Toulouse, tout ça.
Toulouse, oui. Ils sont d'ailleurs restés, mais d'ailleurs, c'est pas nécessairement des gauchistes pour autant. Vous savez, c'est des grands conservateurs, les Ratsok.
Oui, d'accord, bon, je comprends.
Mais laïque. Hein.
Mais laïque, c'est
mais
la grande différence.
Oui.
Donc, vos enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la première communion?
Alors, les filles ont fait leur première communion. Mon garçon a eu beaucoup de mal à accepter, on a fini par lui faire accepter, on était encore là-dedans, pas complètement coupé, donc c'était difficile. Et le plus jeune à qui on voulait ne pas la faire faire, lui voulait la faire.
Ah bon, d'accord. Donc il l'a fait quand même.
Et il l'a fait quand même, et il l'a fait avec ses cousins ici, dans le Gers. Comme ça on a résolu les choses.
D'accord. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors, vous avez parlé d'un rapprochement avec les intellectuels pendant un certain temps. Vous parlez des intellectuels laïcs ou des intellectuels, les prêtres, les dominicains, des gens comme ça?
Non, ça a été d'abord les clercs, dans le cadre des rencontres dont je vous ai parlé, économie, humanisme et tout le reste. Et après, ça a été essayer de voir. On a eu des contacts, Bernard a eu des contacts à partir du PSU avec des gens comme Henri Leclerc, comme. Comment il s'appelait, un journaliste du Nouvel Obs qui était. Comment il s'appelait ce gars-là? Malin. Non, c'est pas le prénom, je ne me rappelle plus, mais c'était Malais, son nom de famille.
Malais,
oui. M-A-2-L-E-T.
Henri Malais.
Non,
pas Henri Malais.
Henri, non.
Mais de la même famille.
Non, je ne pense pas. C'est un mec qui était au Nouvel Observateur.
Enfin, on peut retrouver ça.
Oui. Pas Gilles, c'est... Non, c'est comment? Je ne sais plus. C'est le nom de je m'en reviendrai, mais ma mémoire est toujours très fidèle, n'est-ce pas?
Non, absolument. Et c'est vers ce moment-là que Bernard Lambert a écrit un livre.
Il l'a écrit en 71, c'est ça.
Enfin, moi j'ai 70. Enfin,
70, oui. 70.
Les paysans
oui.
dans la lutte des classes.
C'est ça, 70.
Et d'où est-ce qu'il a eu cette idée?
Il a fait une crise cardiaque.
Ah bon?
En 69, je crois.
Oui.
Et il a eu le sentiment qu'il pouvait mourir. Donc, il avait envie de dire, j'ai des choses à dire, il faut que je le fasse maintenant.
D'accord. Et il a fait ce livre tout seul, avec...
Il a commencé par faire un premier jet. Pour ça, il s'est retiré chez mes parents pendant un mois.
Oui.
Et il a ensuite fait lire ce premier jet aux copains, aux uns et aux autres, et il a retravaillé plusieurs fois ce bouquin.
Et c'était préfacé par Michel Rocard.
Oui, à l'époque, oui.
Parce que c'était toujours le moment de la... Oui, du parti, enfin du PSU.
Du PSU, oui.
Oui, d'accord,
oui.
D'accord. Et c'est un livre qui a eu un grand impact ou...
Oui, c'est-à-dire que il a aussi permis de... Il était le mobilisateur, c'est-à-dire que autour du livre, il y a eu énormément de rencontres et de réunions qui se sont faites dans toute la France. Et Bernard a été y allait, il expliquait.
Parce que c'était aussi le moment des paysans travailleurs.
C'était
un peu plus tard.
C'était un peu plus tard les paysans travailleurs, mais il y avait déjà tout un mouvement autour du syndicat agricole de l'Ouest, aussi bien jeune qu'aîné. Qui était assez contestataire par rapport au national.
Oui, d'accord.
Bernard était secrétaire général au niveau de la région, je pense à cette époque-là. Il a été plusieurs années.
De la FNSEA ?
FRSAO. Fédération régionale FRSAO. Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles.
De l'Ouest ?
Oui, de l'Ouest, oui.
Ça, c'est l'eau.
Voilà. Oui, c'est l'eau.
D'accord.
Et je pense que c'est à travers ça qu'il y a eu déjà une prise de conscience importante.
Oui.
Le centre des jeunes était le CRJAO à ce moment-là, était très contestataire, et c'est de ce noyau-là que sont partis les paysans travailleurs.
Parce que ça commençait en quelle année, les paysans travailleurs ?
Les paysans travailleurs, comme mouvement déclaré, c'était...
Je me cherche ça,
que je dois avoir des choses par là-dessus, je n'ai pas regardé.
Mais au début des années 70.
Oui.
Et c'est un mouvement qui est sorti des syndicats de l'Ouest, ou c'est un mouvement national ?
C'était plus important dans l'Ouest, puisqu'il y avait l'ensemble du CRJAO qui avait pratiquement suivi sur ce terrain-là, mais il y en avait dans le Nord, il y en avait dans la Drôme, il y en avait dans plusieurs départements.
Et donc, et Bernard Lambert est devenu le chef des paysans travailleurs, ou comment ça s'est passé, non ?
Non, ils n'avaient pas besoin de lui. Non, on était à une époque, en plus, si vous voulez, où... les leaders, après 68, les leaders étaient très contestés.
D'accord.
Et il était, en tant que leader, il était un peu mis sur la touche, d'autant plus qu'il était devenu entre-temps président d'une coopérative d'agriculture, de production avicole.
Oui.
Qui s'appelait la SICA de Chaland.
Il s'appelait comment ?
La SICA.
Oui.
Chaland, Société d'intérêt collectif agricole, en fait, SICA.
D'accord.
Voilà. Chaland, c'est une ville de Vendée qui se trouve par là-bas.
D'accord. Donc il avait autre chose à faire, c'est ça ?
Eh ben, c'est-à-dire qu'il était, il était contesté sur cette prise de pouvoir dans les coopératives.
Oh, d'accord.
En tant que président, je ne sais pas, est-ce que vous avez vu le film qui a été fait sur lui, sur
Je ne l'ai pas vu encore, non.
Parce que tous ces trucs-là sont...
Sont racontés là-dedans ?
Oui, absolument, oui.
Non, je dois voir le film, c'est vrai. Et puis est venu le Larzac, la marche.
Alors,
sur le
Larzac. Alors, en 73, oui. La marche sur le Larzac, oui.
Comment ça s'est passé ?
Alors, entre autres, si vous voulez autre café, je dois en avoir.
C'est bon, on continue pour l'instant.
D'accord. Bon. Donc, ça s'est passé, les paysans du Larzac, les 103 paysans du Larzac, avaient projeté, après avoir plusieurs contestations et actions sur le Larzac, ils ont fait leur marche sur Paris.
Oui.
En 72, ça doit être, je ne sais plus à quelle époque, peut-être à cette époque-ci. 72.
Avec leur tracteur.
Avec leur tracteur, et la FNSEA les a, comment dire, non pas soutenus, mais acceptés. Elle a accepté leur démarche jusqu'à ce qu'ils aient été à Orléans.
Oui.
À Orléans, ils ont décidé que c'était terminé. Le gouvernement avait décidé qu'il fallait pas qu'ils viennent sur Paris, parce qu'il y avait déjà, il y avait eu autour de cette marche quand même une adhésion des gens, parce que partout où ils passaient, il y avait des réunions, etc. Donc, arrivé à Orléans, ils décidaient que ça s'arrêtait là. Alors, les gars du Larzac étaient complètement déçus. Bernard était là. Il a dit, c'est pas possible, ça. Donc, il connaissait, il y avait un migrant qui était pas venu de Loire-Atlantique, un de ses copains de Loire-Atlantique, qui s'était installé pas loin d'Orléans. Il l'a appelé. Il lui a dit, écoute, on peut pas laisser faire ça. Vous avez pas des tracteurs, vous pouvez pas reprendre des tracteurs, et puis pour reprendre la marche, puisque les autres sont arrêtés.
Ils étaient littéralement bloqués.
Ils étaient bloqués, oui. Ouais, ah oui, quand il y a des CRS, c'est difficile de faire passer des tracteurs.
D'accord, voilà.
Bon. Donc, les autres ont repris, effectivement. Ils ont repris la marche avec les tracteurs, du coup, mais ils sont pas allés très loin, n'est-ce pas? Alors, autre idée qui a germé dans la tête des gens, c'est de dire, bon, on va mettre un tracteur sur un camion et on va l'amener sous la tour Eiffel.
Ah oui, d'accord.
Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais alors, il y a eu des choses assez hippiques parce que...
Il y avait des moutons sur la tour Eiffel, j'ai vu ça.
Oui, il y a eu des moutons aussi, mais je ne sais pas si c'était la même fois. Là, ils avaient mis un tracteur.
Oui, c'était au champ de marche.
Ils ont fait plein de choses. Oui. Donc là, Bernard a dit, mais puisqu'on ne veut pas laisser venir les paysans de Larzac à Paris, c'est nous qui irons au Larzac.
D'accord.
Et c'est lui qui a lancé un peu cette idée-là, envers et contre pratiquement tout le monde. Enfin, tout le monde, du moins dans le groupe paysans-travailleurs, les gars ont dit, bah, t'es fou, tu te rends compte. Il dit, on aura 20 000 personnes. Alors, il dit, si on a 20 000 personnes, ça sera le bout du monde. Oui, c'est vrai que c'était pas... Dans le film, c'est expliqué par plusieurs des gars, ça. Cette contestation, un peu, en disant, mais il est fou de se lancer. Mais... Et c'est là qu'il y a eu 100 000 personnes.
100 000 personnes.
Oui, entre 80 et 100 000, je ne sais pas exactement, je ne les ai pas comptés parce qu'il y en
avait
trop.
Non, bien sûr. Et vous étiez là?
Ah oui.
Quels sont vos souvenirs?
Le souvenir, on est arrivé, ça a été pareil, comme ce que je vous disais. Il y a eu quatre marches successives, une qui venait de Bretagne et l'autre de l'Est, et du Midi et du Sud-Ouest. Et quand on est arrivé sur Millau, et on est monté, et quand on a été en haut, il y avait le ruban de toute la route qui monte sur le Larzac, éclairé de voitures. Toutes ces voitures qui arrivaient, l'immensité de ce champ qui avait été pour accueillir tout ça, les tentes qui se montaient, c'était formidable.
Formidable. Est-ce qu'il y avait des contacts, est-ce qu'il était en contact personnellement avec certains paysans du Larzac, ou comment ça s'est passé le...
Oui, bah ça s'est organisé avec eux. Ça s'est organisé avec les paysans du Larzac, autrement ça ne serait pas fait. Mais je pense qu'il devait y avoir... Est-ce qu'il y avait déjà, à l'époque, un paysan travailleur dans le coin Enfin, il y avait des contacts, en tout cas, certainement, oui, sur cette lutte, oui.
Oui. Et puis, est-ce que c'était aussi les moments de LIP? Est-ce que le LIP, c'est quelque chose qui l'intéressait, ou c'était...
Ah, mais bien sûr. Il réunissait là ce qu'on avait déjà fait en Loire-Atlantique, c'est-à-dire l'alliance ouvrier-paysan qui lui paraissait quelque chose d'important.
Oui.
Et il avait d'ailleurs, ça, c'est aussi, vous le reverrez dans le film, il avait d'ailleurs eu une image, il avait dit, aujourd'hui c'est le mariage des ouvriers et des paysans.
Oui. Parce qu'il est allé à Besançon.
Et il est allé à Besançon après, mais les LIP étaient venus sur le Larzac.
Ah oui, d'accord.
Oui, les LIP étaient au Larzac.
Oui, bien sûr. LIP, Larzac, même combat.
Voilà.
Donc, Bernard Lambert a parlé sur le Larzac,
oui.
C'est ce qu'il a dit à ce moment-là.
Oui, entre autres.
Entre autres.
Parce qu'il a dit plus que ça. Il a dit, entre autres, plus jamais les paysans ne seront des Versaillais.
Ah oui, c'est ça. Et il avait toujours la même facilité
d'avoir
de
des images, oui.
D'enthousiasmer
les foules,
oui,
sûrement, oui, toujours.
D'accord. Et donc, il y avait une marche à Besançon,
oui.
Pour les LIP.
Oui.
Il était là aussi.
Oui.
Voilà. Et vous aussi?
Non. Ben non.
Y avec les enfants.
Voilà.
Ou avec la ferme.
Voilà, absolument.
Et puis c'est loin.
Ben c'est loin.
Besançon.
Oui.
Donc, est-ce que, enfin, on est maintenant en 75, est-ce que vous trouvez que les choses, enfin, cette période d'agitation s'est calmée après 60, enfin, 75, 73? Ou est-ce que ça a continué?
Mais c'est-à-dire que la période d'agitation, c'est assez sans doute, mais il y a quand même des liens qui sont restés. Il y a surtout une manière différente de mener les luttes au niveau paysan.
Oui.
C'est-à-dire au niveau des productions intégrées, entre autres. Parce qu'il y avait des productions de volailles, des productions de veau,
oui.
Des productions de porc qui étaient sous le régime de l'intégration. C'est-à-dire que c'est des firmes,
oui.
qui ont sous contrat des paysans,
oui.
À qui ils donnent, mettons pour nous c'était les poulets par exemple, l'animal au départ, l'alimentation, les traitements vétérinaires, c'est-à-dire le truc sanitaire, et qui reprennent la bête au bout du compte pour l'abattre et la conditionner.
D'accord.
Donc, il y avait de plus en plus ce type de contrat qui existait où les paysans se faisaient plumer radicalement. Donc, il y a eu beaucoup de luttes sur ce terrain-là.
Mais vous dites qu'il y avait des occupations.
Il pouvait y avoir.
Qu'est-ce qu'ils ont occupé? Les usines?
Les usines, les bureaux des directeurs.
À quel endroit?
Il y en a plusieurs. Vous trouvez ça dans le vent d'ouest. Il doit y avoir les archives au
CHU. Il y avait aussi la guerre de lait.
La guerre du lait en 72,
oui.
Oui,
c'est ça.
En 72 en Bretagne, oui. Ça aussi, c'est une autre forme de... C'est-à-dire qu'avant, on faisait des revendications ou on faisait des manifs pour demander à l'État d'augmenter le prix du blé ou autre chose. Là, on s'adressait directement soit à l'entreprise, soit aux entreprises dont on dépendait directement.
D'accord. Et ce mot paysan, parce que ce mot s'appelle les mouvements paysans, est-ce que pendant longtemps le mot paysan a été un peu péjoratif et à un
Tout
certain
à fait.
Moment, il est devenu
un étendard.
Un étendard,
oui,
enfin, quelque chose d'honorable.
Oui, tout à fait. Tout à
et
fait.
C'était vers ce moment-là.
Je pense que les mouvements d'action catholique ont aidé. Les mouvements de jeunes ont aidé à réhabiliter notre condition de paysan. Moi, je me rappelle, j'ai adhéré, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, peut-être c'est possible, au mouvement d'action catholique après il y avait eu un rassemblement en 1950 où il y a eu 100 000 jeunes sur Paris. Et il en avait été question, à la radio.
Oui.
Et j'écoutais la radio et j'avais trouvé ça extraordinaire que des paysans puissent faire parler d'eux, puissent être à Paris et avoir quelque chose à dire et enthousiasmer les foules, si on peut dire. Quoi.
1950 déjà.
1950.
Oui, d'accord.
C'était en 1950. Il y avait eu, je crois que c'est 100 000 jeunes à Paris. Il y avait
des jeunes agriculteurs ou
des jeunes agriculteurs. Des jeunes ruraux, en tout cas. Il pouvait y avoir aussi, parce que la JAC s'adressait aussi aux.
Donc c'était organisé par la
JAC.
La JAC,
oui,
d'accord.
Et je pense que on commençait déjà à penser que les paysans pouvaient aussi être des gens, pas simplement des ploucs.
Voilà.
Et je pense qu'après, petit à petit, et après 68, c'est là qu'on a plus revendiqué, je crois, le mot de paysan.
Oui, d'accord. Et quel a été le parcours de Bernard Lambert et de vous à la fin des années 70, début des années 80? Est-ce qu'il y a eu des moments clés ou des mouvements importants ou...
Entre 70 et 80.
Oui. Ça s'est calmé un peu.
Il y a eu énormément d'actions en fait au niveau du foncier, au niveau de l'intégration, au niveau. C'était toujours ces luttes assez qu'on nous reprochait un peu. On disait que paysans travailleurs étaient beaucoup trop agressifs.
Oui.
Voilà. Bon. Et ce qui a eu comme moment important. Je dirais par rapport au mouvement, parce que
oui.
C'est les années 80 avec la mise en cause des veaux aux hormones,
oui.
Qui ont été dénoncées en 80. La remise en cause en même temps de l'agriculture productiviste telle qu'elle était pratiquée.
D'accord.
Il y a eu l'influence rentrée dans les mouvements de paysans travailleurs qui ont, à ce moment-là, enfin c'était plus paysans travailleurs, mais enfin la suite, et il y a eu le ça y est, j'ai perdu le mot.
Non, d'accord.
Ceux qui ont influencé ce mouvement,
oui.
C'est les agriculteurs de montagne de la région Languedoc-Roussillon.
D'accord.
Des fois, il y avait dans le tas des installés, comment on les appelait, ceux qui étaient venus à la campagne à ce moment-là. Les néo-ruraux.
Oui, d'accord.
Hein? Il y a eu des néo-ruraux, mais il y avait aussi des gens des montagnes qui n'avaient pas pu faire l'agriculture au productivisme telle qu'on l'a pratiquée dans l'Ouest. L'Ouest a été champion là-dessus, et peut-être c'est pour ça qu'ils ont été aussi plus réceptifs à un certain nombre de choses aussi.
D'accord.
Mais ces deux mouvements se sont rejoints après parce que l'agriculture de montagne était très mal loti avec l'agriculture intensive, il pouvait pas,
oui,
c'est pas possible.
Oui.
D'une part, et donc et avec des néo-ruraux qui ont un peu repensé les choses sur Grenoble, il y avait un groupe de l'INRA qui était très très aussi engagé sur toute cette recherche là. Et je pense que c'est tout ça qui a fait que les choses ont avancé.
D'accord. Et c'est les néo-ruraux, c'est des
intellectuels, des jeunes étudiants, qui sont revenus à la campagne pour élever des chèvres.
D'accord.
Entre autres.
Et quelle est votre opinion en général?
Ah ben en général, ceux qui sont restés, il y en a beaucoup qui sont repartis.
Bien sûr, parce que c'est difficile.
C'est très difficile. Et ils sont partis, ils ont été dans des situations souvent qui n'étaient pas simples, parce que l'accès à la terre n'est pas si facile que ça, on ne la lâche pas comme ça.
Voilà.
Bon, voilà, c'est bon. Et donc, c'est vrai que. Et les autres ont été en renouveau aussi, hein, pour ces régions-là, souvent.
Oui, oui. Et donc, Bernard Lambert est mort en 84, c'est
oui.
Ça? Accidentellement?
Oui.
Oui.
Accident de voiture.
Oui. Et bien sûr, c'est une perte terrible, mais est-ce que, enfin, s'il était toujours là, qu'est-ce qu'il aurait devenu? Est-ce qu'il serait un vert, un intermondialiste? Qu'est-ce que vous pensez qu'il...
Je peux pas interpréter ce qu'il aurait pu devenir. Je n'en sais rien. Je pense qu'il était toujours très combatif, qu'il était toujours, il avait déjà remis en question l'agriculture productiviste.
Oui.
Il était très partant, il avait appelé de ses voeux une confédération paysanne telle qu'elle existe.
Oui.
Quelqu'un comme José Bové est parfaitement à l'image de ce qu'il pourrait être.
C'était la question que j'avais dans la tête.
Ben voilà.
C'est José Bové qui lui a repris le flambeau.
Qui a repris le flambeau, et je pense qu'il l'a repris avec sa personnalité, mais sur des bases qui étaient tout à fait compatibles avec celles de Bernard.
Vous avez rencontré José Bové?
Ah oui, bien sûr.
Il est comment?
Il est très sympa.
Oui, bien sûr. Vous avez voté pour lui aux élections présidentielles?
Oui.
Voilà.
Oui.
Et puis, parce que Bernard Lambert est quelqu'un de légendaire presque.
Oui.
Non? Alors,
oui.
Tu en as un film sur lui, plusieurs films?
Un film.
Un film.
C'est déjà pas mal.
C'est pas mal. Qui date quand?
Écoutez, je crois que c'est 2002. Mais je peux vous donner tout de suite, j'ai les références là, si vous voulez.
Et pourquoi est-ce que vous pensez que ce film a été tourné à ce moment-là?
Parce que son producteur, Christian Rouault, avait envie de faire ce film. Il était originaire de Loire-Atlantique. Il connaissait Bernard Lambert parce qu'il avait été au PSU avec lui. Et il y avait à ce moment-là une production qui se faisait, qui était plus production comment ça s'appelait ce truc-là? Une série de deux ou trois épisodes sur les paysans. Ça se déroulait en Bretagne. Et il essayait de faire passer son film dans ce cadre-là, un petit peu au niveau de la télé. Et finalement, il a obtenu, c'est France 3 qui devait le produire, France 3 Bretagne, et finalement, il a obtenu que ce soit France 2 qui le fasse.
C'est un film qui est passé à la télé, mais aussi dans les salles de cinéma
Oui. Il a été projeté plusieurs fois avec des débats.
Ah, oh, d'accord.
Oui.
Des débats intéressants.
Oui.
Vous avez participé?
Oui.
Qu'est-ce qu'ils ont raconté?
Ils ont posé des questions sur les questions soulevées par le film.
Oui.
C'est-à-dire qu'en gros, je crois que ce qui... Il doit passer d'ailleurs, il doit en passer un ce soir à Toulouse d'ailleurs.
Ah bah d'accord.
Oui.
Dommage que je serais reparti à Paris, mais voilà.
Il le passe ce soir à Toulouse aussi. Donc, avec débat. Ce qui ressortait un peu en gros, si vous voulez, c'est que tout ce qui peut se passer, l'altermondialisme, les remises en cause du productivisme, etc., c'est des choses qui ne sont pas nées comme ça.
Oui.
C'est un chemin, un long chemin, et ça part de toutes ces actions qui ont été menées à ce moment-là. Quoi.
D'accord.
C'est un peu ça, quoi.
Une dernière question. Quels sont vos souvenirs d'aujourd'hui sur cette période agitée
Les mai 68.
Mai 68, mais aussi des années agitées, les années 60, 70.
Mes souvenirs personnels.
Oui, non, c'est-à-dire en général, vous croyez que c'était un moment extraordinaire dans l'histoire de France, l'histoire mondiale. Enfin, est-ce que vous trouvez que le monde a beaucoup changé depuis 80 ou depuis voilà ou depuis
Oui, par je là. Pense que le monde a quand même changé, surtout au niveau. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont restées en rade. Il y a beaucoup de choses qui ont changé au niveau des mentalités. C'est-à-dire que c'est la relation homme-femme, la place des femmes dans la société. Je pense qu'il reste énormément à faire au niveau de la démocratisation au niveau politique.
Oui.
Personnellement, je pense que la société change d'une manière qui n'est pas visible toujours. Moi, j'ai été énormément étonnée quand, après avoir passé, après le décès de Bernard, je suis partie pour gagner ma vie. J'ai laissé l'exploitation, il n'était plus question de rester là-dedans. Et quand je suis revenue, c'est la multitude d'initiatives prises par des gens pour résoudre leurs propres problèmes qui m'a complètement stupéfiée. Il y a eu en Loire-Atlantique en 99 un recensement d'ailleurs des initiatives et un forum des initiatives qui avait essayé de mettre en lumière tout ce travail. Et en revenant ici dans le Midi, on retrouve la même chose, c'est-à-dire que sur le terrain,
Oui.
les AMAP, les marchés à la ferme, tout ce qui se fait pour essayer de contourner cette espèce de magma complètement écrasant de l'économie
Oui.
capitaliste et qui ressurgit un peu de partout au niveau d'un tas d'expériences qui sont faites. Et je trouve que ces choses-là sont très intéressantes et que on est passé d'une société qui était une société hiérarchique,
Féodal, presque.
presque féodale,
Oui.
surtout en
Oui.
Loire-Atlantique.
C'est pas ici, non, mais en Loire-Atlantique.
Oui,
Oui.
absolument. Mais même au niveau de l'ensemble de la société, où tout était, ça partait. Nous, on avait des campagnes d'années qui étaient décidées à Paris et les gens les appliquaient à la base après.
Ouais, d'accord.
Ça, c'est un mouvement qui est complètement ça n'existe plus, ou du moins ça ne marche plus, même si on veut
D'accord.
l'imposer.
Oui.
Et je pense qu'avec ça, on n'a pas trouvé le moyen de fédérer toutes ces choses qui sont proches. Les gens sont capables de se retrouver bon, quand il y a eu Le Pen, tout le monde était dans la rue. Quand tu as des gros trucs, tous ces gens-là se retrouvent. Mais pour les mettre en marche ensemble, de
Voilà, ça.
manière
Structuré.
structurée, ça marche pas.
Donc
On
vous
a
êtes.
essayé de le faire en Loire-Atlantique. J'étais à ce moment-là, j'étais revenu en Loire-Atlantique un petit peu. Et j'avais travaillé avec cette équipe qui avait fait ce forum des initiatives. Et on avait essayé de voir s'il n'y avait pas moyen de faire travailler ces gens d'une manière plus structurée. Effectivement, ça n'a jamais marché.
Pour être plus efficace.
Voilà. Mais bon, c'est pas leur fonctionnement. C'est une action qui peut être très éphémère, mais qui résout un problème et on passe à autre chose.
D'accord.
Et je crois que c'est
Oui.
quelque chose de très,
Parce...
très, très fondamental dans le changement de la société. Je pense que ça donnera après. Je ne
Oui.
sais pas comment ça peut se coordonner, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Mais voilà.
Donc là, c'est une vie associative, c'est
C'est des
des
vies
initiatives,
associatives, c'est des tas de choses.
mais aussi des initiatives
Oui?
économiques.
Oui, aussi, oui.
Oui. Bon, je vois qu'on peut s'arrêter là. Je vous remercie infiniment de votre témoignage.
Je ne sais pas ce
Merci.
que vous pourrez en faire, mais
Ah,
fais-moi.
beaucoup, beaucoup,
Ah bon?
beaucoup.
Est-ce que vous voulez d'autres...